Bonsoir. Processus électoral en RDC après la clôture des opérations de cartographie des bureaux d'enregistrement des électeurs et bureaux de vote. La CENI a annoncé à l'issue d'un entretien avec la députée nationale Solange Massoumbouko le début des opérations d'enrôlement des électeurs au mois de décembre prochain. La centrale électorale a aussi annoncé avoir trouvé une entreprise qui lui fournira le kit pour l'enregistrement des électeurs. Le 9 août dernier, le gouvernement américain a octroyé la somme de 23,75 millions de dollars pour soutenir le cycle électoral en cours en RDC. À une année des prochaines élections, quel bilan dressé du processus électoral en RDC? Participe au débat Joseph Senda, directeur chargé des suivis des opérations à la CENI. Monsieur Senda, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Pasteur Eric Senga, délégué de l'Église du Christ au Congo auprès de la plateforme des confessions religieuses. Pasteur Eric Senga, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Jérôme Bosso, il est président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Jérôme Bosso, bonsoir.
Bonsoir Madame Kémy, bonsoir à tous les auditeurs de la radio de la paix, Radio Okapi.
À Kananga, au Kasaï Central, vous nous suivez sous la 93.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La CENI a clôturé l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles lancée au mois d'avril dernier dans les 26 provinces de la RDC en prévision des prochaines élections. Des agents ont été recrutés, formés et déployés sur terrain pour identifier les territoires et les espaces pouvant accueillir la population pour l'enrôlement et le vote proprement dit. Joseph Senda, directeur chargé des suivis des opérations à la CENI, revient sur les travaux faits par cette institution d'appui à la démocratie. On l'écoute au micro de Jodine Kachama.
L'actualisation des cartographies opérationnelles. Ce travail avait commencé depuis le 14 juin par la ville de Kinshasa et nous avons terminé le 31 juillet de ce mois. Enfin, de cette année, je voulais dire. Alors, tous les proposés sont rentrés après qu'ils aient visité les différents groupements et les différentes communes. À ce stade, nous sommes en train de consolider les données que nous avons récoltées pour qu'au finish, nous ayons une nouvelle cartographie des centres d'inscription, c'est-à-dire ceux qui nous ont reçus en 2016-2018, plus d'autres qui se seraient ajoutés selon les besoins qui nous auront été exprimés sur terrain. Donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire maintenant, c'est la consolidation des données sorties de l'opération d'actualisation des données, des cartographies opérationnelles. À la fin des fins, on va sortir la cartographie des centres d'inscription. C'est-à-dire que nous aurons, en tout et pour tout, peut-être plus de 20 000 lignes, si je peux dire ainsi. Chaque ligne étant un centre d'inscription qui aura son code, le nom et l'adresse. Ça peut être l'avenue telle, quartier telle, commune telle, ou ça peut être village telle, groupement telle, tel secteur, telle chefferie, tout ça. Nous devons avoir tout ça pour plus de 20 000 centres d'inscription.
Joseph Senda, je rappelle que vous êtes directeur chargé de suivi des opérations à la CENI. Nous venons de vous suivre avec notre collègue Jodine Kachama après la clôture de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles lancée au mois d'avril dernier. L'heure est à la consolidation. Est-ce que cette consolidation a déjà pris fin?
Non, merci beaucoup pour la parole que vous me donnez. Et la consolidation est en cours. Nous avons commencé depuis lundi passé. Nous terminons en fin de cette semaine. Il y a plus ou moins 180 collègues, agents et cadres de la CENI qui sont mobilisés à cette tâche. Ainsi, nous pensons qu'au fond, au terme de cette consolidation, nous aurons le nombre exact de centres d'inscription. Mais déjà, on peut les estimer à tout au plus, grand maximum 22 500 centres d'inscription. sortiront du travail de consolidation qui est en cours en ce moment précis au niveau de la centrale électorale sur le boulevard. Le travail se déroule sans problème.
À la fin de la consolidation, la CENI va-t-elle publier la nouvelle cartographie?
Bon, disons que les autorités de la CENI vont décider qu'est-ce qu'il faut faire, notamment dans le cadre des cas de concertation. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que le répertoire des centres d'inscription qui sera produit va nous servir à la personnalisation des kits d'enrôlement. Et vous savez très bien que la CENI a signé un contrat d'acquisition des kits auprès de la société coréenne Miru. 16 agents CENI sont en ce moment à Séoul, et justement dans le cadre de cette production. À notre niveau, nous qui sommes restés au siège, nous apprêtons les répertoires pour que nous puissions transmettre à Miru, de sorte à ce qu'un kit qui sera fabriqué depuis l'usine soit affecté à un seul village. Si le village est à Sundu Lutete, ça sera à Sundu Lutete. Si le village est à Moba, il sera à Moba, à partir de l'usine. Et cela, ça sera fait à l'aide ou à partir des informations qui sortiront de l'atelier de consolidation qu'ils font en ce moment. C'est tout ce que nous attendons pour le moment.
Alors à ce stade, qu'est-ce qui a déjà été fait qui peut garantir qu'en décembre 2023, il y aura bel et bien élection en RDC?
D'abord, il y a la consolidation qui se fait, la cartographie sera là, et vous avez suivi, et vous l'avez répété vous-même, à partir de la première quinzaine du mois de décembre, nous allons devoir commencer la RFE, la révision du fichier électoral. 9 provinces sont déjà programmées pour l'ère opérationnelle numéro 1. Je l'ai dit une fois, il s'agit du Congo central, du Grand Bandundu, de Kinshasa, de 4 provinces de la province du Grand Équateur. Ce sont ceux-là qui vont constituer la première ère opérationnelle. 2 ou 3 semaines après, une deuxième ère opérationnelle va commencer. Et avant la fin du mois de mars 2023, nous aurons terminé la révision du fichier électoral. Et comme vous le remarquez, nous serons déjà en pleine session 15 mars, 15 juin. Donc nous serons prêts avec l'annexe à la loi portant répartition des sièges, parce qu'il faut que cette loi soit adoptée par le Parlement. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Nous sommes prêts déjà à recevoir les candidatures. Dans l'entretemps, nous avons déjà les données sorties de la RFE qui vont nous permettre d'avoir les bureaux de vote après un repérage, qui vont nous permettre d'avoir les listes électorales, la cartographie du bureau de vote. Donc nous sommes vraiment en bonne voie. Nous n'avons pas vraiment à nous inquiéter de quoi que ce soit.
Alors Joseph Senda, avant la fin du mois de mars, la CENI aura déjà fini avec la révision du fichier électoral. Est-ce que vous avez tenu compte de toutes les difficultés qui peuvent arriver, par exemple les routes, les moyens de transport, les problèmes d'électricité?
Mais nous le faisons depuis 2006. Depuis 2005, nous avons commencé notre première opération d'identification d'enrôlement des électeurs en 2005. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que la situation est presque la même, ou pratiquement la même. Mais je voudrais rappeler ici que les préposés que nous avions déployés sur terrain ont fait preuve de beaucoup de courage, parce que certains sont arrivés à atteindre les zones insécures. Ils ont collaboré avec les groupes armés pour obtenir les informations dont nous avons besoin. Nous pensons que, avec l'accompagnement du gouvernement, parce que là, il faut le dire, la sécurité est assurée par le ministère de l'Intérieur. Donc, nous faisons ce que nous devons faire, et nous avons foi et nous avons
Et même dans les territoires occupés par les groupes armés, la sécurité est assurée par le ministère de l'Intérieur?
Par la police et l'armée, bien sûr.
La police vous accompagne dans les territoires occupés par les groupes armés?
Non, dans les groupes armés, nous travaillons avec eux. Ils nous ont accueillis pour la cartographie. Nous pensons qu'ils vont nous accueillir. Ils ont accepté des travaux pour prélever les données dont on avait besoin dans le cadre de la cartographie. Partout, nous avons été partout. Même là, il y a les plus méchants des groupes armés, nous avons été là-bas. Les préposés ont été là-bas.
La CENI est très optimiste par rapport à la tenue des élections en décembre 2023. Il y a quelque temps, elle se plaignait de n'avoir pas assez de moyens financiers pour organiser certaines opérations. Cette question a-t-elle déjà trouvé une solution?
Bon, je crois que il y a un budget qui a été élaboré à cette fin et un autre budget est en cours d'élaboration pour 2023. Si nous avons réussi à faire la carto, c'est parce que les moyens avaient été mis à nos dispositions. Dans tous les cas, c'est pas de l'argent qu'on quémande, hein. Il faut que les trésors publics se préparent à nous accompagner dans l'organisation des scrutins de l'an de 2023. On ne commande pas l'argent, c'est quelque chose d'un droit, en quelque sorte.
On peut avoir une idée, Monsieur Joseph Senda, du budget global des élections de 2023?
Non, mais le budget est en cours d'élaboration, je ne peux pas dire ça sera combien. Les amis travaillent déjà, je ne peux pas, c'est ça, dire que ça pourrait être combien. Je n'ai pas une idée exacte à ce sujet.
On vous garde encore dans cette émission le temps pour nous de donner la parole au pasteur Eric Senga, qui est délégué de l'Église du Christ au Congo auprès de la plateforme des confessions religieuses. Pasteur Eric Senga, quelle lecture vous faites de l'évolution du processus électoral en RDC?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Je crois que vous allez permettre que je donne une précision. Le pasteur Eric Senga est porte-parole de l'ECC et secrétaire général en charge de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création. Voilà. Alors, à ce titre, je pense que notre frère Joseph donne une lecture très intéressante. Mais il faut toujours savoir que la CENI a deux niveaux importants. Il y a un niveau politique, il y a un niveau technique. Donc toutes les difficultés ne sont pas forcément techniques. Qu'à cela ne tienne, je rappelle ici trois choses. La première des choses, la feuille de route produite par la CENI depuis février nous proposait une période de 20 mois pour l'ensemble des opérations. Donc, octobre 2021 en mars 2023. À ce titre, il faut déjà noter que nous sommes largement en retard. Puisque, deuxième chose, en 2006, nous avions eu à peu près 22 millions. En 2011, on a eu à peu près 32 millions d'électeurs. En 2018, nous étions à 40 millions. Donc, les estimations font que chaque cycle électoral, il y a une majoration en termes d'électeurs qui varie entre 5 à 7 millions. Et donc, éventuellement, pour 2023, nous supposons avoir plus ou moins 45 à 47 millions d'enrôlés. Ça, c'est une réalité. Or, si nous prenons la feuille de route de la CENI, en principe, on devrait déjà enrôler près de 2 millions et quelques chaque mois. Donc, il faut que notre ami de la CENI intègre ces éléments techniques dans leur présentation des faits. Nous sommes aussi flattés de leur optimisme, mais cela ne nous empêche à réfléchir par rapport aux estimations réelles. Le vrai deuxième, troisième problème, nous sommes au niveau des opérations sensibles. Je pense que le 13 et le 14, l'ECC avait rendu public une communication qui faisait justement état de la mauvaise communication de la CENI jusqu'à ce niveau. Je crois qu'entre les lignes, mon frère Joseph parlait des cadres de conservation, mais je vous rappelle que jusqu'à ce jour, particulièrement l'Église protestante et même l'Église catholique, ne sont pas encore associés aux discussions de ce qu'on appelle cadre de conservation. Alors que le contexte global est très sensible, que ce soit sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et même sur le plan logistique, les bonnes pratiques auraient voulu que la CENI partage un peu les informations avec les parties prenantes. Parce que quand la CENI organise les élections comme une affaire privée, alors qu'elle est une institution d'appui à la démocratie, et qu'elle ne s'ouvre pas aux informations, ça crée quand même beaucoup de doutes et ça suscite des malentendus.
La CENI a échangé avec les partis politiques, avec la société civile. Vous n'avez pas reçu d'invitation du côté de l'ECC?
Non, nous n'avons jamais reçu d'invitation. Nous sommes allés vers la CENI en son temps, par nos équipes, Justice et Paix, mais la CENI en tant que telle ne nous a jamais invités. Et nous l'avions dit par plusieurs fois. Donc c'est pas par mesure de grâce, c'est une obligation parce que nous sommes partie prenante au processus électoral, commission d'observation électorale. Donc là, ce sont quand même des choses qui dérangent énormément. Vous avez bien fait de poser la question sur la cartographie avec la situation sécuritaire aujourd'hui. Quelle sera la philosophie? Par exemple, les zones qui sont en proie des conflits armés. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le pays est dévasté par les conflits armés. La situation sécuritaire qui fait l'objet des contraintes présentées par la CENI, il y a la situation financière. Vous avez vu que mon frère, à ce stade, c'est pas de sa faute, n'a pas pu présenter un budget. Or, nous sommes déjà à une année électorale. Jusque-là, on n'a même pas l'idée d'un budget global des opérations. Donc, c'est pour dire que la situation pour nous est très préoccupante dans la mesure où les éléments importants qui restent, notamment le calendrier électoral. Parce que maintenant, nous naviguons à vue. Donc, on ne sait même pas comment la CENI est en train de structurer les opérations. C'est comme si c'est au gré de la CENI. Vous vous réveillez, on vous dit, on va faire ceci, on vous donne une communication. Des communications isolées, ça ne nous aide pas, nous qui sommes des missions d'observation électorale, pour aussi accompagner les travaux à long terme. Donc, c'est pas de cette façon que la CENI peut prétendre gérer les processus en affirmant la crédibilité du processus, alors qu'elle est incapable de mettre sur la place publique les informations sensibles. Je note ici, on n'a toujours pas les calendriers électoraux. Le travail de la cartographie est fait à vase clos. On ne sait même pas les zones qui sont en train de connaître des mouvements, des mutations des populations, comment la CENI s'organise pour gérer tout cela. Il y aura de l'incidence sur la loi des répartitions de sièges, il y aura l'incidence sur la localisation des bureaux de vote et même des centres de compilation, il y aura aussi incidence sur les circonscriptions. Donc c'est une matière à la fois technique mais aussi politique. La CENI ferait mieux de prendre toutes les mesures et les précautions, d'éviter des choses qui renforcent les soupçons sur sa crédibilité. Voilà un peu, Madame Couté, à cette étape du débat, ce que je peux affirmer pour nous. En tout cas, on est très inquiets.
Vous êtes optimiste comme la CENI. Vous pensez que il pourrait y avoir glissement, Pasteur Eric Senga, après tous les problèmes que vous avez soulevés sur le processus électoral?
Exactement. On a l'impression que nous risquerons de nous retrouver dans deux hypothèses. Soit la CENI nous présentera un processus qui sera bâclé et nous serons obligés de faire les choses à la hâte comme on a vécu en 2011, soit alors on sera devant une impasse qui ne nous permettra pas de connaître les élections dans le délai constitutionnel. Et là, c'est plus inquiétant, comme nous pouvons le dire.
Jérôme Bosso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INEDIT en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. En sigle, la CENI a clôturé l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles lancée au mois d'avril dernier. Elle a aussi annoncé que d'ici décembre, les opérations d'enrôlement des électeurs vont commencer. Avec ces deux grandes opérations, pensez-vous qu'en 2023, il y aura réellement élection en RDC?
Merci, Madame Mokini-Kouté. Merci. Et avant de répondre à votre question, je tiens à saluer le co-débatteur, le directeur Joseph et le grand pasteur Senga qui sont avec moi autour de ces débats. Oui, nous pensons que le rendez-vous de 2023 devrait être respecté. Ah, c'est une exigence légale et une exigence constitutionnelle, mais il y a aussi des problèmes là pour y aller. Mais vous venez de parler de la cartographie, de l'actualisation des cartographies opérationnelles et la consolidation des données. Et nous avons aussi assisté dernièrement à la signature des contrats de soumission d'équipes d'enrôlement. Et nous avons assisté à la rencontre entre le président de la CENI, M. Denis Kadima, et le directeur général de l'Office national d'intégration de la population. Et nous avons constaté qu'il y a certaines avancées. Parce qu'au départ, nous-mêmes, au niveau de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à l'État et l'INELIT, nous étions rendus compte que sur, au regard de la feuille de route, publiée à son temps par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI avait aligné 120 activités. Sur les 120 activités, à son temps, il y avait 34 activités qui étaient réalisées. Et ça donnait un pourcentage de 28,33%. Et ça nous inquiétait. Mais alors qu'il est, au regard de la vitesse de croisière que la CENI est en train de prendre pour arriver au rendez-vous de 2023, rendez-vous électoral 2023, ça nous rend de plus en plus maintenant optimistes pour voir que la CENI pouvait s'en sortir. Mais sans pour autant minimiser les aléas techniques, les aléas planificationnels et organisationnels. Tout en rappelant que la Commission électorale nationale indépendante a été instituée avec un retard de 28 mois. Et ce retard de 28 mois a impacté sur la planification opérationnelle de la CENI. Et c'est qu'aujourd'hui, la CENI est en train de travailler à cheval sur les délais critiques des opérations électorales et sur les délais compressés des opérations électorales. Vous l'avez si bien dit, nous allons nous trouver maintenant bientôt 9 provinces. Le monsieur directeur vient de quitter les 9 provinces qui vont connaître la première opération, aire d'opération numéro 1. On a mis 9 provinces, 2 aires d'opération numéro 2, ou bien zonage 2. On a mis 9 et zonage 3. On a mis 8 plus 1. Et la CENI vient d'innover de faire participer le Congolais de la diaspora, le Congolais résident à l'étranger, à cette opération d'enrôlement d'inscription au poste. Et ça va impacter le reste du temps, au regard du temps, parce que sur les 5 pays qui sont listés par la Commission internationale d'indépendance, nous les citons, Afrique du Sud, Belgique, France, États-Unis d'Amérique et l'autre pays, Canada, ces pays vont constituer en fait une province au lieu de 5 provinces. Donc on va ajouter 8 provinces pour avoir le nombre de provinces égal à 27 provinces. Maintenant, le problème technique va s'opérer. Sur l'approche technique pour l'actualisation du budget électoral, le premier ministre a signé 3 décrets à son temps, au mois de février. Le premier degré, c'est sur, portant sur le fichier global de la population. Le deuxième degré, c'est sur la carte d'identité nationale. Et le troisième, sur la mutualisation des opérations par la CENI, Institut national des statistiques et l'ONU. Et maintenant, comment les choses vont se faire? C'est au niveau de l'approche. Quelle approche la CENI et l'ONIF, dont nous avons salué la rencontre entre les deux principaux animateurs, vont opter pour faire cette opération? Parce que là, dans l'identification en moment des électeurs, il y aura 27 variables qui vont intervenir. Donc la CENI va travailler sur 14 variables et l'ONIF sur 16 variables. Comment harmoniser pour arriver à produire la carte d'électeur et la carte d'identité nationale? Tout ça, ce sont des problèmes techniques dans lesquels, si on ne tient pas compte, ça peut faire vacciner les choses. Ça peut faire vacciner le curseur électoral au-delà de 2023. C'est quand nous disons, au regard des aspects techniques, au regard même de la commande des kits électoraux, des kits électoraux, le temps de déploiement et le temps de faire sur l'ensemble du territoire national, c'est pas pour rien. Que vous avez posé la question au directeur, je veux savoir, est-ce qu'avec nos routes ainsi de suite, est-ce que le déploiement sera facile avec les seuls moyens? C'est un technique qui personne ne peut prétendre maîtriser à l'heure qu'il est pour dire nous allons le faire au niveau de la planification capacitaire automatiquement. Non, il faut tenir compte de ces éléments-là. Et aussi le problème de financement. Est-ce que la CENI peut se rassurer d'une dotation du métier ou ce métier de la part du gouvernement? En même temps, il y a eu le fonds, comme le directeur l'a reconnu, pour les opérations de récolte des données de la cartographie opérationnelle et pour les grandes opérations. Est-ce que le gouvernement serait à mesure de doter la CENI avec des moyens financiers en temps réel? Faute de quoi, les autres opérations connaîtraient le retard. C'est pour nous disons à cette étape, madame, il y a le retard, bien sûr, le retard est là. Et comment le nouveau leadership managérial de la Commission électorale indépendante va s'y prendre pour rattraper ce retard qui va s'inscrire maintenant dans le chemin critique de délai
climatique. Mais vous, en tant qu'expert, vous, en tant qu'expert, Jérôme Bosso, vous pensez que c'est possible de rattraper ce retard déjà accumulé par la CENI?
C'est possible, oui, c'est là où nous avons, au niveau de la plateforme Agir pour les transports et l'État et l'INELIT, nous avons salué le nouveau leadership, sa capacité d'introduire les facteurs correctifs pour récupérer le retard. Mais ça ne peut pas se limiter à ce niveau-là, parce que tout ce que la CENI, le nouveau leadership de la CENI est en train de faire, ça dépasse le nouveau leadership, ne maîtrise pas le finances, ne maîtrise pas d'autres choses, d'autres contraintes extérieures à la CENI. Et malgré sa bonne volonté, mais sinon, il y a une détermination. Parce que quand on organise des élections, les élections, c'est une des choses. Un, sur la volonté politique. La volonté politique est déjà exprimée par le président de la République, qui le dit sans cesse comme le rendez-vous de 2023. Le rendez-vous de 2023 sera respecté. Deux, il faut aussi la volonté et l'engagement technique. La volonté et l'engagement technique exprimée par le nouveau leadership de la Commission électorale indépendante, toute l'équipe est déterminée à ce que le rendez-vous de 2023 soit respecté. Mais, madame, il y a ce qu'on appelle des imprévus. Des imprévus ou bien des facteurs externes à la volonté technique détruite par la CENI, ça pourrait perturber les choses. À moins que le leader de la volonté exprimée, je le répète, par le chef de l'État, président de la République, d'organiser les élections dans le délai et de donner des instructions claires au ministère du Budget, au ministère des Finances, pour qu'on puisse attraper à tout moment et à temps réel le moyen pour arriver. Parce que si aujourd'hui, on a signé la signature de commandes de kits électoraux et d'autres services annexes, et si on respectait le plan de décaissement de fonds pour honorer les factures des uns et des autres, il y a d'autres opérateurs, d'autres intervenants sur le terrain qui vont intervenir.
Monsieur Joseph Senda, les auditeurs sont très nombreux à nous appeler, à nous écrire. On va aller dans la province de l'Ituri pour suivre cet auditeur qui nous appelle.
Ingénieur Bénédicte Oukila depuis Aoumba, territoire du Mangui, en province de l'Ituri. De mon avis, je constate qu'avec cette lenteur d'organisation des choses, le risque est de reporter les élections pour le mois d'avril 2024 avec la situation sécuritaire à l'est et au centre du pays. La maladie à virus Ebola qui fait son retour et avec le budget qui continue à se stabiliser. Ma question est celle-ci. Avec toute la réalité de 2018, où les Congolais de l'étranger n'avaient pas voté, et même nos frères de Béni, est-ce que toutes les conditions sont-elles réunies afin de permettre à nos frères de se choisir librement leurs élus?
Joseph Senda, réaction.
Merci beaucoup, madame, pour la parole. Avant que je n'arrive à apporter quelques éléments de réponse au bien-aimé qui vient de poser la question, je voudrais apporter un certain nombre d'informations qui, à mon avis, vont rendre optimistes ceux qui sont très pessimistes par rapport au processus électoral. D'abord, je voudrais que les uns et les autres sachent que la CENI attend enrôler 49 382 553 électeurs. À l'édition passée, nous étions servis de 20 000 kits. Nous attendons 27 069 kits d'enrôlement, soit une capacité installée de 73 millions d'électeurs. Donc, par rapport à ça, nous n'avons pas d'inquiétude. La deuxième chose, après une journée de réflexion que nous avions appelée journée avec le monde scientifique, il nous avait été fait remarquer que les CI étaient éloignés les uns des autres. Nous sommes en train de travailler dans le cadre de la consolidation pour que la distance passe des 10 kilomètres à un peu plus de 5 kilomètres. Donc, nous allons davantage rapprocher les centres d'inscription des électeurs pour que l'accès soit tout à fait facile. Je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent que depuis 2005 jusqu'à ce jour, jamais notre pays n'a été en paix, jamais notre pays n'a amélioré ses infrastructures. Pourtant, chaque fois qu'il est faux, nous avons une révision du fil électoral et nous avons des scrutins. Donc, il n'y a pas de raison d'avancer l'insécurité ou d'avancer l'état des routes pour dire que les élections ne pourront pas se dérouler, d'autant plus que les conditions sont les mêmes et n'ont pas changé depuis 2005 jusqu'à ce jour. Et je voudrais aussi rappeler que les portes de la CENI sont ouvertes. Nous suivons l'actualité. Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, reçoit des gens. Donc, si jamais quelqu'un a besoin de se faire recevoir, des députés passent, ils sont reçus. Le pasteur peut aussi passer, il sera certainement reçu.
Mais vous avez lancé des invitations aux partis politiques, à la société civile. Pourquoi vous ne l'avez pas fait pour l'église protestante
et
la SANCO?
Nous avons ouvert la période d'accréditation des missions d'observation. Et là, tout le monde est le bienvenu. Je crois qu'on n'a pas refusé à l'une de ces deux églises de solliciter une accréditation pour suivre les activités de consolidation de la cartographie opérationnelle, ou même des collectes de données. Nous avons accrédité des observateurs qui nous ont accompagnés sur terrain. Peut-être que l'opération attire moins que la RFE ou les scrutins, mais nous pensons que la cartographie est aussi importante que la révision du fichier électoral, que même les scrutins. Nous aurions bien voulu voir les observateurs nous accompagner. Alors, le budget, il est en cours d'élaboration. Donc, je ne peux pas dire combien nous allons avoir à ce moment, parce que les éléments rentrent et on attend à gauche, à droite pour que tout soit fin prêt. Alors, je voudrais faire remarquer que l'ONIP et la CENI se sont réunis vendredi sous ma coordination pour produire la fiche d'identification commune qui reprend l'ensemble des variables. Donc, on n'est pas en retard, nous sommes prêts, mais on ne doit pas les faire sous le toit de la maison en criant « nous faisons ceci ou cela ». C'est le vendredi passé, et l'ONIP et la CENI, nous sommes à Séoul pour finaliser le logiciel qui va nous servir au travail d'enrôlement.
Il faut
nous
communiquer, c'est ça que les CC vous reprochent. La communication de la CENI n'est pas bonne, selon le pasteur Eric Senga.
Mais j'ai suivi tout à l'heure des gens dire que le président a cité les pays où va se dérouler la révision des fichiers pour la diaspora. Bon, c'est une façon de communiquer, parce qu'il a annoncé les 5 pays. Et beaucoup d'informations passent par les médias. Je ne pense pas qu'il y a des informations qu'on cache. Il n'y a pas de raison qu'on cache. Si nous devons aller en France, en Belgique, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis pour enrôler, on cacherait pourquoi? Et qu'est-ce qu'on va dire? Bon, voilà, nous venons de vous dire qu'il y a plus de 16 agents, plus le NIP qui sont à Séoul pour le logiciel, après la signature du contrat avec Miro. Ça a été médiatisé, la signature avec Miro. Donc je ne vois pas ce qu'on pourrait cacher. Nous travaillons et nous avançons, quoi. Il y a une feuille de route qui se déroule en dépit de tout, et nous avançons. Et je disais tout à l'heure que nous terminons à la fin du mois de mars la révision du fichier électoral, y compris la diaspora, que nous attachons à la deuxième ère opérationnelle. Donc, quand nous allons commencer le Grand Katanga, le Grand Kasaï, eh bien, nous irons aussi en France, en Sud-Afrique, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, pour enrôler les compatriotes qui sont là-bas. Et quand nous aurons terminé, nous allons apprêter l'annexe à la loi portant extension de siège. Le Parlement sera en session le 15 mars au 15 juin. Ça sera fini pour nous. C'est quelque chose d'incontournable. Sinon, on est bloqué. Et au même moment, nous allons ouvrir les BRTC pour recevoir les candidatures.
Pour vous, Joseph Sendai, il n'y a pas de retard à récupérer. Vous êtes dans le bon, dans le délai.
Je ne vois pas pourquoi les gens sont pessimistes. Personne ne m'a convaincu de son pessimisme. Personne. Je suis tout le monde. Je dis, bon, voilà, non, ceci, c'est là, oh, le gouvernement, tout ça, les suppositions, oh, les goûts rebelles, tout ça. Bon, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens veulent bien verser dans le pessimisme sans justifier la raison du pessimisme, quoi. Je ne vois pas pourquoi.
Pasteur Eric Senghor, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
C'est Gilbert Olofo Aluando. Je vous appelle depuis Kinshasa. Dès l'opération de cartographie des bureaux d'enregistrement des électeurs et bureaux de vote, nous constatons déjà qu'il y a un « ça ne va pas », non seulement sur le plan organisationnel, mais également sur le plan de crédibilité et de transparence. Car par exemple, dans la province de la Choapa, cette province a vu le nombre de sièges tant au niveau provincial que national diminuer par rapport aux élections passées. La question que je pose à l'invité, c'est de savoir, est-ce que le nombre de la population de cette province a diminué ou comment? Que l'invité puisse nous dire, parce que nous ne comprenons pas jusqu'à présent, comment le nombre de sièges de cette province peut diminuer jusqu'à ce niveau. Et à mon avis, nous, le peuple congolais, nous voulons non seulement des élections en 2023, mais également des élections qui seront libres, crédibles et appelées.
Alors, je pense que cette question s'adresse beaucoup plus à Joseph Senda de la CENI. Il va y revenir, hein, on va lui poser la question. Mais Pasteur Eric Senghor, il y a déjà des soupçons. Certains Congolais craignent que ces élections ne soient pas transparentes, crédibles et apaisées. Juste un bref commentaire.
Bon, merci beaucoup. J'ai suivi le directeur Joseph dans son argumentaire. Je crois qu'il est important pour la CENI de développer un sens critique et de prendre un peu de distance de certaines évidences. L'impression qu'on nous donne, vous voyez déjà quand tout est balayé du revers de la main, les inquiétudes sont très simplifiées, des éléments qui se passeraient d'un bout à l'autre sans difficulté, mais ça inquiète. Ça inquiète énormément. Nous sommes au quatrième cycle électoral. Si les élections étaient aussi faciles comme le dit le directeur, je rappelle ici qu'il y a une dimension politique, il y a une dimension technique. Je ne suis pas sûr que le directeur contrôle toute la sphère politique de l'organisation des élections. Je ne suis pas non plus sûr qu'il a la maîtrise de tous les paramètres, comme disait mon confrère Jérôme, les imprévus. Je crois que c'est trop simpliste de présenter les choses sous cette forme du moment où leur propre feuille de route prévoyait 20 mois pour les opérations, du 21 octobre au 21 mars. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, finissant. Mais nous avons déjà perdu beaucoup de mois. Si nous sommes pessimistes, ce n'est pas par aventure, c'est le sens critique. Et nous critiquons sur la base des évidences. Maintenant, vous relayez la question de notre compatriote qui est à Choapa. Je rappelle ici, nous sommes une église qui a des assises et un ancrage national. Et les informations qui remontent de Choapa, nous les avons également. Je ne vais pas me verser dans les considérations politiciennes, mais j'aimerais ici rester vraiment comme technicien pour dire à la CENI que les élections ne sont pas organisées pour la CENI, elles sont organisées pour la population. La CENI est une institution d'appui à la démocratie et par conséquent, une institution citoyenne. Vous ne pouvez pas dire que l'ECC passe pour demander l'information, alors que vous ignorez qu'il y a ce qu'on appelle des parties prenantes au processus électoral. Si cette compétence était réservée qu'à la CENI, pourquoi alors les missions d'observation électorale interviennent? Pourquoi les partis politiques sont là? Les risques, c'est quand la CENI se croit détenir le monopole de l'organisation des élections, alors qu'elle oublie, partant de la Constitution jusqu'aux lois du pays, il y a des parties prenantes, il n'y a pas que l'ECC. Il y a la société civile qui intervient, il y a les partis politiques qui sont là. Qu'est-ce qui est aujourd'hui l'objet majeur? Qu'est-ce qui met les doutes? Mais c'est l'absence d'un cadre de discussion. Admettons que tout ce que les directeurs présentent là n'arrive pas. Quel serait le cadre idéal où les gens peuvent arrondir les angles, où peuvent avoir l'information, maintenant que vous vous ouvrez à la communauté internationale, à nos compatriotes de la diaspora? C'est une innovation. Mais nous voulons vous rappeler que le temps n'est toujours pas à notre profit. Donc si on pense tous les affirmations que nous développons, et donc que c'est des leurres, et donc que c'est fallacieux, ça n'a pas de fondement, des validités, c'est là même qui nous pousse à nous interroger sur le sens et la responsabilité que la CENI mesure sur les enjeux de l'heure. Donc c'est trop simpliste de balayer les choses du revers de la main pour dire nous ne sommes pas des spectateurs au processus électoral, nous sommes l'organisation de la société de la société civile, nous sommes des églises, nous intervenons dans les processus et c'est dans l'obligation de la CENI d'inviter les parties prenantes de la société politique autant que la société civile pour partager les informations. L'équipe Nanga qui est sortie, parce que le directeur, je l'entends bien, il est un ancien de la CENI. Mais vous savez que l'équipe Nanga, en dépit de beaucoup de choses qu'on lui reprochait, elle n'essayait pas la discussion. Il y avait beaucoup de cas où les gens discutaient. Les élections ne sont pas que techniques, elles sont aussi politiques. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Il y a des éléments qui inquiètent au niveau, surtout de la cartographie. Merci. Parce que même le directeur ignore tous les mouvements des populations que nous enregistrons. Les directeurs ignorent qu'aujourd'hui, à Kouamouch, par exemple, il y a ce qui se passe. On simplifie pour dire non, c'est pas la première fois que cela se passe. Il y a toujours eu des élections, mais ça, c'est très dangereux.
Merci.
Est-ce que tout ce qui s'est passé aujourd'hui entre les grands Kassai vers le Katanga, au niveau du Grand Est, aujourd'hui à l'Ouest, cela ne nous interroge pas à révisiter même l'orientation, les a priori, en termes de discussion, ne serait-ce que ça. Donc, il faut beaucoup de réserves. Hein.
Joseph Sendab, comment vous répondez à cet auditeur qui a posé le problème de la Chuapa, où on a vu le nombre de sièges, tant au niveau provincial qu'au national, diminuer par rapport aux élections passées?
Bon, je suis obligé de dire un mot au révérend pasteur que ça fait 17 ans que je suis dans cette maison. Des deux, je suis congolais, je ne suis pas extraterrestre, donc je connais les rouages de notre pays. Je tiens à lui dire que nous venons de terminer l'élaboration des TDR pour un atelier sur les déplacés internes. Il y en a 5 100 000 informations reçues de l'OIM. On ne va pas mettre ça sur la place publique. Je sais mieux que lui ce qui se passe à travers le pays parce que nous sommes en collaboration avec le mouvement national du suivi de la Cour d'Addis Abeba qui gère les situations. Nous n'allons pas crier ça sur la voie publique. J'étais à Yumbi après les événements de Yumbi, pour ne citer que ce cas-là. Nous suivons la situation de Kouamout, quoi. Donc, on ne va pas se mettre à crier sur la voie publique parce qu'on ne voit pas ce qui se passe partout. Toutes les institutions de la République travaillent. Elles ne crient pas sur le toit. Nous faisons ceci, nous faisons cela.
Alors, vous répondez quoi à cet auditeur, Joseph Senda, très rapidement?
Bon, dans tous les cas, les sièges sont fonction du nombre d'électeurs qui se font enrôler. Il n'y a pas une autre magie que ça. Il n'y a une autre magie que ça, je voulais dire. C'est fonction du nombre d'électeurs que l'on reçoit. Que le député de la Chuapa en particulier se mobilise pour que les électeurs viennent se faire enrôler. C'est à partir de ça qu'on calcule le nombre de sièges. Ce n'est pas quelque chose qui sort des bureaux de la CENI. Et ce qui est valable pour la Chuapa l'est pour toutes les provinces du pays, que ceux qui s'intéressent à la question mobilisent les électeurs. Que les électeurs viennent se faire enrôler, nous calculons les sièges en fonction des électeurs reçus sur base des orientations reprises dans la loi électorale.
Merci.
Et la loi électorale, c'est le Parlement. Donc, c'est pas quelque chose de la CENI.
Jérôme Bosso, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Kisangani.
Albert Kolembela Bokomba depuis Kisangani dans la province de la Chopo. Pour que l'élection soit réalisée dans ce pays, il y a trois conditions, à savoir volonté politique, moyens financiers, matériels. Étant donné que le gouvernement a montré sa volonté, c'est ainsi qu'on a assisté aux premières opérations de la CENI. Au moment actuel, les moyens financiers et matériels restent un élément important pour atteindre cet objectif. À mon avis, le gouvernement congolais et la CENI ont un ennemi qui est l'État. Si on ne fait pas attention, on risque de glisser sans le savoir.
Brève réaction, Jérôme Bosso.
Je dis son avis de notre intervenant de Kisangani, tout en disant que les élections, il y a toujours eu des préalables, ou bien des facteurs, ou bien des triangles électoraux, où nous avons un temps qui est au-dessus, c'est le coût des élections, là, c'est en bas, c'est le délai des élections, et le troisième angle, c'est la qualité des élections. Quelle élection voulons-nous avoir en 2023? si nous respectons les trois angles et que nous tablons aussi sur la volonté politique, comme la vient de le dire, je vais répéter que la volonté politique est exprimée et incarnée par le président de la République. La volonté technique, c'est l'engagement de nouveau leadership de la Commission électorale indépendante de tenir des élections dans le délai constitutionnel. Et le moyen qu'on a disponibilisé pour y arriver. Et si les trois éléments sont réunis, on a la chance d'en sortir. Attention, on ne peut pas aller aujourd'hui les élections pour les élections. Et c'est pour mettre l'accent sur le fait que les élections doivent être organisées avec les Congolais. Quand on organise les élections avec les Congolais, la tenue qu'ils ont les élections avec les Congolais, c'est-à-dire avec toutes les parties au processus électoral, nous, on va s'approprier de cette
votre
et nous pensons que nous allons conjuguer nos efforts dans la réussite de la qualité des élections que nous voulons avoir. Il y a un problème de l'armée dans les
Votre ligne, Jérôme Bosso, essaie de bouger pour améliorer la qualité de la ligne, ça crache.
Je disais ceci, qu'il y a des problèmes dans le Nord Kivu et Sud Kivu, les conflits armés. Il faudrait que le gouvernement puisse anticiper l'application du plan opérationnel de sécurisation du poste électoral. Et c'est sûr, avec ce plan-là, on pourrait sécuriser les élections qui sont en train de dérouler dans des zones à conflit armé et dans d'autres zones pour que tous les Congolais puissent avoir droit au chapitre. Et c'est pourquoi nous disons, on est d'accord, nous devons nous investir dans la qualité des élections. Nous devons nous investir afin que les élections puissent être apaisées. Et c'est de là où nous devons conjuguer nos efforts avec le pouvoir organisateur des élections, qui est la Commission électorale indépendante, et nous, le parti prenant au processus électoral, ensemble, nous pouvons conjuguer nos efforts pour que 2023, les élections de 2023 puissent être différentes des élections des cycles électoraux précédents. Nous pensons qu'à ce moment-là, avec cette innovation que la CENI, c'est pour avoir nos compatriotes des 5 pays pilotes qui vont participer à l'enrôlement Europhone, et avec la machine à voter, nous pensons que cette nouvelle technologie électorale va réduire la durée, va réduire le délai critique et le délai compressé.
Merci.
Et qu'avec le moyen disponibilisé, on va s'en sortir sans qu'il y ait d'inquiétude et que 2023 puisse être un modèle et une référence du point de vue élection.
Merci Jérôme Bosso. On va considérer cela comme votre conclusion. Nous sommes à la fin de notre magazine. Joseph Senda, la machine à voter sera utilisée en 2023. Est-ce que ce sera avec les machines utilisées en 2018 ou bien il y aura un nouveau lot?
Bon, je ne peux pas décider de manière définitive en ce moment, mais le peu que je peux dire, c'est qu'il y a de fortes chances que nous recourions aux mêmes machines parce que ça nous a fait 105 000 machines, quoi, à commander. Il en reste un peu plus de 90 000 parce qu'il y en a qui ont été brûlés, il y en a qui ont été volés. Et les fonctionnalités sont encore en vigueur, en application. Donc, il y a de fortes chances que nous recourions à la même machine, au même type de machine à voter pour les scrutins de 2023. Donc, à ce moment-là, ça nous posera moins de problèmes parce que c'est déjà un lot important. Nous estimons, nous attendons plus ou moins 5 et 3 000 bureaux de vote. Nous sommes un peu plus de 90 000 machines à voter, donc peut-être une 30 000 à commander, ça ne pourra pas faire beaucoup de choses ou beaucoup d'inquiétudes. Donc il y a de fortes chances que nous recourions à la même machine à voter.
Merci Joseph Senda. Pasteur Eric Senga, votre conclusion?
Notre conclusion est que nous avons besoin tous d'avoir des élections apaisées, crédibles et transparentes. Et nous sommes au quatrième cycle. Nous ne devons pas ignorer que les précédents cycles ont toujours posé problème. Et si même aujourd'hui nous parlons des réformes, parce que les réformes consistent à corriger les erreurs. Donc on ne doit pas considérer comme si dans ce pays les élections s'est passées très bien. On est d'accord et très flatté de toute la théorie technique qu'on nous présente, mais les élections restent éminemment politiques et aussi techniques. Il faut concilier les deux et que la CENI mette sur la place publique l'information et que le cadre des concertations soit établi pour que le parti prenante au processus soit impliqué en vue de trouver une situation beaucoup plus apaisée.
Merci, Pasteur Eric Senga. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, sous la supervision de Martin Sebujangwe, qui m'ont aidé à préparer cette émission. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa. Présentation et coordination, Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.